Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, il est 18h, on est lundi, on devrait être le 20 aujourd'hui, parce que cette émission est en effet une autre émission qui va jouer en rediffusée. Si je dis jeux vidéo, studio, Québec, vous pensez sûrement à un nom comme Ubisoft. Malheureusement, Ubisoft c'est un studio français, qui est évidemment qui a des bureaux au Québec, mais parlons un peu des studios québécois, qui sont basés au Québec, faits par les Québécois. J'en ai un, justement, aujourd'hui, avec moi, un studio québécois indépendant basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son jeu phare, Magical Monster Girl Academy, a valu plusieurs accolades, on va dire ça comme ça. Ce entrepreneur est invité régulièrement à plusieurs conférences et à des événements d'industrie. C'est à un de ces événements où nous nous sommes d'ailleurs rencontrés. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Watapono. Bonjour Watapono, comment allez-vous?
Bonjour. Ben, merci beaucoup premièrement de me recevoir. C'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on fait. Donc, ça va très bien toi-même?
Ça va. Je suis content de vous parler aujourd'hui. D'abord, peut-être commencer par le fond du sujet. Qui est Watapono?
Ben, Watapono, en fait, c'est une petite entreprise de jeux vidéo qui a commencé, ça fait déjà 7 ans, on a fêté notre 7e anniversaire en ce beau mois d'octobre 2025. Et ça a commencé tout simplement, on était deux personnes, moi et un artiste, un ontarien que j'ai trouvé sur Internet. Et on a tout simplement commencé à vouloir faire des jeux ensemble. Et on a fait des jeux. On a commencé par faire un premier jeu, un premier monstre, un premier système de combat qu'on pouvait lancer des sorts sur le monstre. Et ça a pogné. Maintenant, on est rendu avec plus de 40 000 copies de nos jeux vendus. On a deux gros jeux de sortie. On s'enligne sur notre troisième ce printemps. Et voilà, moi je suis pas développeur de jeux de formation. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin de développeur de jeux pour faire des jeux vidéo. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille qui sont des professionnels incroyables et qui sont beaucoup plus talentueux que moi dans le jeu vidéo parce qu'ils sont formés là-dedans. Donc les formations, c'est évidemment une très bonne chose et je dirais jamais l'inverse. Mais moi, ce n'est pas le chemin que j'ai pris. Moi, le chemin que j'ai pris, en fait, c'est microbiologiste. Donc je suis microbiologiste de formation. J'ai commencé à faire des jeux vidéo lorsque j'étais à l'université, justement. Et depuis ce temps-là, je continue à faire des jeux. La vie m'a un petit peu amené dans différents emplois et avec la tournure que ça prend récemment, j'ai décidé d'aller temps plein dans ce qui était avant juste un petit loisir, mais qui est désormais mon travail.
Et vous êtes quelqu'un qui aimait d'ailleurs aller à des événements, à des conférences et donner des présentations.
Absolument. Je l'ai dit d'entrée de jeu, parler de ce qu'on fait, c'est toujours... Je trouve toujours que c'est très gratifiant parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir. Au Québec, on a cette espèce de drôles de relations avec l'entrepreneuriat où il y a beaucoup de petits entrepreneurs. On a beaucoup d'entrepreneurs en construction, par exemple. On a beaucoup d'entrepreneurs juste dans les salons de coiffure, les restaurants. On a beaucoup de petits entrepreneurs, de petits moyens entrepreneurs autour de nous. Et on a beaucoup de gros entrepreneurs aussi. On peut penser à Saint-Hubert, on peut penser à Rona, qui sont des produits québécois, plus maintenant, mais ça l'était dans le temps, qui ont été partis au Québec. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on a une forte culture entrepreneuriale au Québec, On a très peu de mentors et on a très peu de personnes pour nous partir en entrepreneuriat en 2025, pour nous donner des conseils. Donc moi, c'est ce que j'aime faire. C'est une des raisons pourquoi j'aime parler aux gens. C'est justement de leur dire, c'est quoi les bons coups, c'est quoi les mauvais coups, c'est quoi les pièges à éviter pour justement aider un peu là, à partir cette culture entrepreneuriale-là qui, je crois, on a perdu un petit peu, là, malheureusement, avec les années.
C'est difficile de partir une entreprise, justement. D'où vous êtes venu cette, on va dire, cette envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat?
C'est une excellente question. Il faut dire que j'ai pas parti une entreprise au départ. Je dis souvent que il y a deux façons de faire des jeux vidéo, soit en tant qu'œuvre d'art, donc c'est un projet qu'on aime. Et ça, c'est extrêmement valide. On n'a pas besoin de faire des millions de dollars pour que notre jeu vidéo soit un bon jeu ou un jeu valide. Donc, on n'a pas besoin d'être le prochain Hollow Knight ou le prochain Sea of Stars ou le prochain Baldur's Gate. Ça aide, là, on s'entend, mais c'est pas un must dans le jeu vidéo. On n'a pas besoin de faire ça. Or, moi, je l'ai commencé comme ça, comme un petit projet sympathique. Je me suis parti avec 500$ dans mes poches. J'ai dit, bon, je vais mettre un petit peu d'argent, un petit peu de mon argent. Puis on s'est parti après ça, une plateforme sur Patreon, qui est un modèle de financement collectif. Donc, les gens s'abonnent à tous les mois, donnent un petit peu d'argent, ont des bénéfices en retour, des versions du jeu, des accès derrière la scène, tout le tralala. Et c'est surtout grâce à ce modèle-là qu'on a pu vivre au début. Et bien, cet argent-là, évidemment, on l'a réinvesti dans le jeu. On a engagé plus d'artistes, on a engagé des personnes pour faire les voix de nos personnages, tout ça. Donc, au début, moi, ça a parti vraiment comme un petit projet là, que je faisais dans mon sous-sol. Ben, j'avais même pas de sous-sol à l'époque. Dans mon salon, parce que mon bureau était dans le salon de l'appartement. Et on a parti, c'est ça, dans le salon, pour le plaisir, pour faire un jeu. Puis on m'a dit, ben ça a pogné, puis c'est devenu gros. Puis notre premier jeu est sorti, on a vendu 10 000 copies la première année. On est rendu à plus de 20 000 maintenant pour ce jeu-là. Puis on m'a dit, ben, force est d'admettre qu'on avait une communauté qui était très grande et qui redemandait des jeux. Puis là, ben, je me suis posé la question, bon, ça vaudrait-tu la peine de faire ça de temps plein, après 5 ans quand même? Puis ben, la réponse a été oui. Donc je me suis lancé là-dedans temps plein, qui est toujours assez épeurant. Se lancer dans l'entrepreneuriat, là, c'est pas quelque chose c'est pas une décision à prendre à la légère. Définitivement, la stabilité d'un travail et savoir que le jeudi, on reçoit un chèque de paye. Moi, je n'ai pas cette stabilité-là. Je m'arrange pour l'avoir, on s'entend, mais je travaille très fort pour l'avoir. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, cependant. Donc voilà, moi, j'ai commencé comme un petit projet pour le plaisir, puis finalement, ben on est devenu assez gros, la communauté est assez grosse pour supporter les artistes que j'avais engagés et moi aussi. Parce que, ben, on dira bien ce qu'on veut, mais manger puis payer son électricité, c'est quand même assez important.
Justement, parlons de communauté. Vous parliez de justement la communauté de joueurs qui s'est qui a adoré vos jeux et qui a formé une communauté autour de ces jeux-là. Et également, vous avez sûrement aussi interagi avec d'autres entrepreneurs de votre domaine. Comment est-ce que vous trouvez ces expériences?
Au niveau de la communauté, nous, on a une communauté magnifique, pour vrai, dans le sens où la publicité, c'est pas mon fort. Il faut que je le dise, le marketing, c'est vraiment pas mon fort, malheureusement. Donc, la communauté qu'on a créée avec l'OTA, c'est une communauté qui se connaît beaucoup. On a vraiment un petit noyau serré de personnes là, qui vont vivre la communauté. On est surtout sur notre Discord qui est associé à notre plateforme Patreon. Et c'est ça, on a un petit noyau très très fort, puis ça fait une communauté qui est très organique, très réelle. Donc c'est sûr, on n'a pas des millions de personnes dans notre communauté, mais en même temps, on n'en a pas besoin. Et ce qui est drôle avec les communautés, c'est que, et là je pense que tous les créateurs là, peuvent être d'accord avec moi, c'est qu'il y a une relation très complexe entre un créateur et sa communauté, une relation amour-amour et une relation amour-haine et haine-haine tout en même temps. évidemment, amour-amour, parce que nous, on fait des gros jeux qui sont plaisants et que notre communauté aime, et notre communauté aime ça, et en même temps, ben, ils nous le disent qu'ils aiment nos jeux. Ça, c'est génial. Mais après ça, ben, évidemment, on a le côté un petit peu amour-haine, là, que lui est toujours un petit peu plus drôle, par exemple. Ah, oh, ben là, c'est bien le fun ce que t'as fait, là, mais là, cette mécanique de jeu-là, là, moi, je la trouve pas intuitive, faudrait que t'en travailles. T'sais, pis ça, c'est un joueur qui nous dit ça, puis t'sais, c'est important de prendre ces critiques-là, mais c'est toujours dur quand t'as passé des jours, des semaines à développer une mécanique de jeu, à développer un personnage, peu importe, puis que tu te fais dire « Est-ce pas bon? » Essentiellement, c'est toujours un peu dur à prendre, mais c'est important de savoir le prendre. Et puis t'sais, en même temps, ces commentaires-là sont jamais mal vus, ou plutôt viennent jamais d'une mauvaise place de la part des joueurs. C'est toujours dans un but, évidemment, qu'on fasse quelque chose de meilleur par la suite. Quoique des fois, il y en a là, qui font juste littéralement dire des méchancetés par rapport au jeu. Là, c'était comme, bon, ben, ok, tu sais, t'as pas aimé le jeu, c'est correct. Puis ben, après ça, il y a la relation haine-haine, comme je disais. ça, c'est quand le joueur aime littéralement pas ce qu'on fait, ou pire encore, quand on n'a pas fait assez de ce qu'il voulait. Hein? Par exemple, nous, on a un personnage qui est un dragon, Iryl, qui est un dragon de glace, et on l'utilise souvent comme à la fin de nos jeux, comme moment très climatique du jeu, on l'utilise à ces moments-là. Et bien, il y a des gens qui voudraient l'avoir plus, qui voudraient avoir plus d'interactions, plus de dialogue avec ce personnage-là, mais non. Tu sais, selon l'histoire, ben, elle a juste un petit rôle. Fait que là, évidemment, les joueurs sont pas contents parce que ben, on n'a pas mis leur personnage préféré dans le jeu qu'ils aiment. T'sais. Fait qu'on a tout ce genre de relations-là avec les communautés. Mais tu sais, ça reste toujours de bonne guerre, ça reste toujours pour faire des beaux produits. Puis il faut se rappeler que la haine est simplement l'inverse de la médaille de l'amour. Tu sais, quand on n'aime pas quelque chose, puis qu'on va le dire au créateur de Hey, ça, tu sais, j'aurais aimé en avoir plus de ça, je trouve que t'as pas pris une bonne décision, ben c'est parce qu'il aime notre produit au final. C'est parce qu'il aime l'univers qu'on a créé, puis ça vaut tout l'or du monde, pour vrai, là. Ben, finalement, ça paye pas l'épicerie, malheureusement, mais ça vaut tout l'or du monde quand même.
Je crois que tu n'aurais pas pu me le dire. Après la pause, nous parlerons en fait du parcours de Watapono, de ses débuts, de son développement, du développement de ce jeu, et des réalités de l'industrie, et enfin l'environnement des jeux PC actuellement, après la pause. Donc, de retour de la pause, Watapono, racontez un peu nous, racontez un peu nous, racontez-nous un peu les débuts de votre studio.
Oui, donc voilà, on le dit un petit peu d'entrée de jeu, mais évidemment, le début est plus complexe qu'une seule phrase, là. Donc voilà, moi j'ai commencé cela, écoute, ça fait 7 ans déjà de cela, le 1er octobre. En fait, j'avais commencé un petit peu au mois de septembre, c'est là que j'avais rencontré mon artiste, on avait discuté. Puis on s'est dit, ben let's go, on part, moi je mets 500$ là-dedans, puis après ça, le reste de l'argent, ce sera la communauté qui la donne. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut trouver de l'argent quelque part. Nous, on a décidé d'aller dans le modèle socio-financement. Et ben, les gens ont des avantages là, à donner de l'argent justement pour le studio. On
Donc,
commence avec ça.
oui ou
Oui?
non, continuez.
Parfait. Fait que c'est ça, on a commencé avec ça, puis au mois de novembre, donc un mois plus tard, on avait un petit démo de jeu qu'on mettait sur Internet, on avait déjà nos premiers supporters sur Patreon, on a ramassé quelques centaines de dollars assez rapidement, donc ça a permis de faire vivre le reste, donc de faire rouler, autrement dit, là, une petite base de jeu, parce que évidemment, il y a toujours des morceaux qui coûtent très cher, et en entrepreneuriat, c'est les morceaux que tu peux pas faire toi-même. Moi, je faisais le game design, je faisais la programmation, mais évidemment, je ne peux pas tout faire. Donc, je ne peux pas faire l'art. Moi, je peux ne pas me payer. Et d'ailleurs, je ne me suis pas payé pendant 5 ans, jusqu'à temps que je devienne temps plein. Ça, c'est quelque chose dans l'entrepreneuriat. C'est un style. Bon, est-ce que c'est un bon style ou un mauvais style? On pourra en parler pendant des heures. Mais voilà, fait que je payais mes artistes parce qu'évidemment, je ne suis pas bon au dessin. Tout simplement, je ne suis pas bon au dessin. Je ne peux pas faire toute l'art qui est nécessaire pour un jeu vidéo. Donc, on a parti là-dessus. 2 ans plus tard, ensuite de ça, notre Patreon était rendu assez gros pour engager mon artiste à temps plein. Donc, c'est essentiellement lui là, qui prenait tout l'argent du projet pendant les 2, 3, 4 premières années. On a lancé notre premier jeu le 11 février 2021, Magical Waifus Academy. Et on a par la suite pu engager un autre artiste avec cet argent-là. Et depuis ce temps-là, ça roule. On devient de plus en plus gros, là.
Justement, je voulais vous poser la question par rapport à votre jeu phare, Magical Waifus Academy. On va parler évidemment du développement. Je vais vous poser des questions sur le processus du développement, mais avant, je voudrais savoir quelle a été votre inspiration ou vos inspirations, autant en termes des créateurs de jeux qu'en termes de jeux eux-mêmes, pour Magical Waifus Academy?
Oui. Pour Magical Waifus Academy et la suite Magical Monster Girls Academy, qui se ressemblent beaucoup, il y a deux jeux, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Le premier jeu, qui s'appelle The Tower, qui est un jeu assez niche. Peut-être que vous connaissez, peut-être que non. Mais j'ai beaucoup aimé le gameplay. Et si on va voir au niveau de Magical Waifus Academy, ça se ressemble beaucoup. C'est un jeu qui joue uniquement avec WASD, ou les flèches, donc les quatre flèches, les quatre directions. Et c'est un jeu qui, essentiellement, se joue juste avec ça, parce que c'est des contrôles que tout le monde peut prendre, c'est des contrôles qui se font super bien sur manette, sur téléphone, donc c'est des contrôles qui vont super bien. J'aimais bien l'univers aussi de Tower, et de fait, il y a quand même beaucoup de similarités là, entre The Tower et Magical Waifus Academy. Et le deuxième jeu que je me suis beaucoup inspiré, c'est Magicka. Magicka, qui est un jeu indie qui date de beaucoup d'années, là. Je pense que ça trahit mon âge là-dessus. Et ce jeu-là, en fait, le concept de ce jeu-là, c'est avec les 6-8 touches, donc Q, W, E, R, A, S, D, F. Chaque touche représente un élément, le feu, l'eau, l'électricité, tout le tralala. Et quand on met deux éléments un à côté de l'autre, parfois, ben, par exemple, le feu et l'eau, ça fait l'élément de vapeur. Et là, après ça, on peut mettre plein d'éléments comme ça, les mélanger ensemble, et ça fait une quantité possible de sorts infinis. C'est un jeu qui a été acclamé par la critique pour cette raison-là, et par les joueurs aussi. Donc ça, c'était mon inspiration. Je voulais quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose qui, comme dans Magicka, t'es pas bon parce que ton personnage devient plus fort, parce que soudainement, t'as 2000 d'attaque au lieu de 10 d'attaque comme au début. T'as pas 500 points de vie au lieu de 25 points de vie. Non, je voulais un jeu qu'on devient bon parce que le joueur devient bon. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec mes jeux aussi. Dans le fond, comment on lance les sorts dans mon jeu, c'est avec les quatre flèches. Dépendamment du motif de flèche que tu fais, ça va lancer un certain sort. Et bien évidemment, plus le joueur est rapide à rentrer ces combinaisons de touches-là sur son clavier, plus le personnage est bon. Parce que plus le personnage est rapide aussi. Et c'est vraiment ce que je voulais aller chercher là. Et c'est justement, je suis allé prendre ça de Magicka, là, entre autres. Donc ça met deux grosses inspirations pour le jeu que j'ai fait. Mais essentiellement, ça se résume à j'ai fait les jeux que je voulais jouer plus. J'aurais voulu plus de Magicka, j'aurais voulu plus de Tower, mais il n'y en avait pas. Fait que je l'ai fait moi-même.
Et justement, le premier jeu que vous avez fait vous-même, Magical Waifus Academy, C'était comment, en fait, l'expérience de développement pour ce premier jeu-là?
C'était difficile. C'était difficile parce que je savais pas ce que je faisais à l'époque. J'avais déjà fait un jeu, un petit jeu là, pour le fun. Donc, j'avais fait ça tout seul. Ça m'avait pris 2 ans. J'avais appris à programmer en faisant ça. Mais c'est évidemment, il n'y avait pas de conséquences au succès ni à l'échec de ce jeu-là. Tandis qu'avec Magical Waifus Academy, ben si j'échouais, si je faisais un jeu qui était pas bon, que les gens aimaient pas, ben j'avais un artiste à payer là. Donc évidemment, lui, il comptait un petit peu sur moi pour avoir un emploi, puis encore une fois, payer son épicerie, payer son électricité. Donc ça, pour ça, j'avais une motivation de plus à réussir, puis à réussir à temps surtout, parce que c'est bien le fun d'avoir des projets, mais si ça me prend 8 ans à faire un jeu, évidemment, ma communauté ne suivra pas, là. Il va falloir que je le fasse plus rapidement que ça. Et c'est ça, l'expérience de développement de premier jeu qu'on veut à plus grand déploiement, tout en apprenant tout le côté marketing, affilier plusieurs personnes ensemble, avoir du voice acting, juste aller chercher des gens aussi, ce qu'on appelle le cold email en anglais, là, le courriel froid, qui est une très mauvaise traduction. Et essentiellement, aller voir des gens que tu ne connais pas dans l'industrie, qui sont des professionnels, et leur dire « Hey, j'aurais besoin d'un animateur, veux-tu venir travailler pour moi? Hey, j'aurais besoin d'un doubleur pour ce personnage-là, peux-tu venir travailler pour moi? » Puis tu sais, c'est des gros noms, c'est des noms qui sont dans des génériques de séries Netflix, c'est des personnes qui sont sur IMDb, donc c'est des gros noms, et apprendre à contacter ces gens-là aussi, ce fut une grosse difficulté. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'apprentissage, puis beaucoup d'apprentissage sur le tas. Et c'est une des raisons, comme je disais tantôt, pourquoi j'aime parler de ce que je fais. C'est justement pour dire ce genre de choses-là, que oui, c'est dur, oui, on apprend beaucoup sur le tas, mais c'est quelque chose qui se fait. C'est pas impossible. Les entrepreneurs, c'est pas des génies, là, ou c'est pas des surhommes ou des surfemmes. C'est juste des gens.
Vous en avez parlé de votre jeu Magical Waifus Academy d'un point de vue de l'entrepreneuriat, mais peut-être pour nos auditeurs, ce serait aussi bien de partager c'est quoi le concept du jeu et comment on y joue aussi.
Oui, ben voilà. Donc Magical Waifus Academy, la suite Magical Monster Girls Academy, c'est un jeu de fantasy. Donc on est un mage, une sorcière en fait, parce que j'ai décidé que la société fantastique dans laquelle on était, nous on utilise beaucoup le masculin en français, donc tout est toujours masculin. Ben dans la société que j'ai faite, tout est au féminin, parce que ben ça me tentait, c'est juste c'est des sorcières tout simplement, au lieu d'être des sorciers, c'est des sorcières. Et ben voilà, donc on incarne une sorcière gars, entre autres, là, mais bref, une sorcière. Et on va dans des donjons, on combat des monstres à l'aide de sorts, à l'aide d'objets magiques, et on sort de là plus fort, avec plus de pouvoir, on peut acheter des nouveaux sorts, améliorer nos sorts, on rencontre des gens aussi, on fait des quêtes. Donc c'est vraiment votre jeu standard fantasy. Voilà, une petite affaire là, qu'on prend sur le canapé à 14h un dimanche après-midi, puis qui est juste plaisant à jouer. Moi, je l'ai développé aussi pour que les contrôles soient très accessibles. Donc, tantôt, je parlais que les sorts se faisaient avec les 4 flèches. Ben, c'est justement pour ça que je voulais le mettre. Il n'y a pas de combinaison incroyable de boutons. Je voulais vraiment que ça soit un jeu accessible à tous. Donc, 4 flèches, tout le monde comprend le concept. Et on peut faire les sorts rapidement, oui, pour devenir meilleur, mais on peut les faire plus lentement aussi, puis ça va venir changer comment on joue, mais ça se joue quand même. Donc ça fait partie de l'accessibilité que j'ai mis dans le jeu. Et là, maintenant que vous connaissez tout le jeu, tout le tralala, tout l'univers, puis vous vous dites « Ah, mais c'est normal, le fun, on a un studio québécois, tout ça », ben c'est le moment de vous dire qu'en fait, nos jeux, ce sont aussi des jeux pour adultes. Donc, ce sont des bons jeux d'abord et avant tout, mais c'est des jeux où... Ben voilà, on fait des activités pour adultes à l'intérieur. Ça n'enlève rien au jeu, ça rajoute beaucoup de choses, ça rajoute beaucoup de temps de développement aussi, parce que Dieu sait que c'est long faire ce genre de contenu-là, surtout tout dessiné à la main. Mais voilà, donc voilà, ce sont d'abord et avant tout des excellents jeux, mais aussi des jeux pour adultes.
Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'on reconnaît un bon artiste par les dessins que cet artiste est capable de faire, disons, adulte justement, comme vous le dites.
Oui, aussi.
Et justement, par rapport au... Je crois que c'est ça qui a fait le succès de Magical Waifus Academy. Évidemment, j'ai joué un jeu, je suis moi-même fan de vous, là, c'est évident. Mais je crois que c'est la simplicité, l'accessibilité de ce point de vue-là. Le contenu, évidemment, l'art est magnifique. Le jeu est très bien conçu. Et également, évidemment, les waifus. Les waifus, c'est ça qui fait le succès du jeu. Et certains peuvent penser que rencontrer le succès, ben maintenant, on roule sur l'or, tout va bien et y a plus rien, il n'y a plus d'inquiétude, on est sur les nuages. Mais Watapono, peut-être vous voudriez partager un peu, c'est comment exactement rencontrer le succès. Évidemment, les avantages, mais aussi les inconvénients et les défis.
Oui, ben on pourrait croire ça. J'ai dit des quand même gros chiffres au début de l'entrevue. T'sais, on a vendu 40 000 copies de notre jeu. C'est incroyable. On a des artistes qu'on a engagés, tout ça. Moi, fut un temps, dans une autre vie, j'étais enseignant. Et ben dans les faits, malgré que je sois à la tête de mon entreprise, d'un studio qui marche très bien, là, je suis clairement dans le top 2, 3, 4% là, des studios de jeux vidéo au monde. Parce que bon, ça c'est une autre affaire. Il y a beaucoup de studios de jeux vidéo qui meurent dans l'œuf. Mais bon, ça c'est un sujet pour un autre jour. Mais voilà, et malgré tout, ben, je fais pas le même salaire que ce que je faisais quand j'étais professeur. Hein? Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est faire ce qu'on aime, avoir l'horaire qu'on veut. Mais en même temps, c'est beaucoup de travail et c'est souvent un salaire qui est moins haut que ce qu'on pourrait aller faire si je travaillais chez Ubisoft, par exemple, pour les renommer eux, là. Donc ça fait partie d'une des dures réalités de l'entrepreneuriat. Et tu parlais de, justement, les désavantages du succès. Évidemment, les gros avantages, c'est justement être son propre patron, vivre de l'art qu'on fait. C'est merveilleux, ça n'a pas de prix. Les désavantages, maintenant, ben évidemment, moi, je suis dans le milieu adulte. Je suis basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean et je ne donne pas d'entrevue au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que ben, tout le monde connaît ma face. Puis, veut pas, ça reste un milieu qui a beaucoup de stigma contre... bon, fouillez-moi pourquoi, là, on vient tous de là puis on le fait tout. Là. Bon, c'est pas exactement stigmatisant, mais pourtant, c'est la société dans laquelle on est. Le bon vieux fond cato, comme dirait notre premier ministre. Donc ça reste un des désavantages, mais plus de mon milieu à moi, là, spécifiquement. Mais je dirais que c'est assez étrange, le succès. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire ça, je faisais des jeux dans le salon de mon appartement. Donc, j'ai jamais voulu devenir le succès comme ça, tu sais. J'allais à des événements à Québec, à Montréal, tout ça, puis je me présentais, hey, « Salut, tu sais, je suis un petit studio de jeux vidéo, on commence, on n'a pas un jeu encore de fait, bonjour », tu sais, j'avais l'air du petit coup dans le coin de la pièce, parce que je l'étais. Et maintenant, quand je vais dans ce genre d'événement-là, c'est les nouveaux petits coups, et je dis ça de manière, juste pour qu'on comprenne, mais c'est les gens qui viennent me voir pour réseauter, et ça, c'est quelque chose... que je pensais pas qu'il allait arriver qu'un jour j'allais être la référence dans le milieu du jeu vidéo indépendant. Ben pas la référence, on s'entend, je suis pas la référence, je suis une référence parmi d'autres. Dans le sens où mon studio est assez petit, mais est assez gros, donc je suis dans un milieu, un espèce de point milieu accessible. Mais voilà, donc c'est ça, on me demande des invitations sur LinkedIn, ça arrivait pas avant ça. On me demande de faire des entrevues à la radio, ça n'arrivait pas avant ça. Et ben c'est ça, c'est ce genre de choses qui sont vraiment quand même agréables, évidemment, mais un peu surréel encore. Quand je vois des gens qui postent des vidéos en ligne de mes jeux, des YouTubers qui jouent à mes jeux, c'est comme, OK, t'es qui? Je te connais pas. C'est juste quelqu'un qui est tombé sur mon jeu puis qui a décidé que c'était assez bon pour mettre sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est un peu surréel tout ça. Franchement, là, travailler avec des gros noms de l'industrie de l'animation, des gros doubleurs aussi. Ça aussi, je pensais pas un jour travailler avec les personnes qui font les voix de mes personnages préférés dans les animés. Et pourtant, maintenant, je le fais quotidiennement. Donc, c'est surtout surréel, je dirais, le succès. Je suis pas millionnaire, mais quand même un certain succès. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment considérer le succès égal à l'argent? Bon, ça, c'est une autre discussion, finalement. Mais voilà, c'est comme un rêve éveillé. Dans le sens où rien fait du sens, mais il faut quand même naviguer dans tout cela.
Justement, par rapport à la nature surréelle du succès, il y a une question que je voulais vous poser à partir de ce que vous venez de dire. Il y a quelques années, quand j'étais journaliste à The Game Creator, j'étais allé à Fan Expo pour couvrir l'événement là-bas. C'était le premier événement en personne post-pandémie, on peut dire, lorsque tout est en train de rouvrir. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec Steve Downes, qui est le doubleur de Master Chief dans Halo. Et lui je lui avais posé une question. C'est quand est-ce que lui il a pensé que ok là on a Halo, mais là on a quelque chose, parce que lui il fait ça depuis le premier Halo, et lui il a dit c'est lorsque il était chez un ami et son ami il jouait à Halo, puis il n'avait pas reconnu que c'était lui qui faisait la voix de Master Chief, et ensuite lorsqu'il a révélé que lui faisait la voix de Master Chief, soudainement il y a eu il avait dit comme une douzaine d'enfants avec leur Xbox et leur copie de Halo Combat Evolved qui étaient venus demander son autographe. Et là, il a compris, OK, là, on a quelque chose à dire. C'est là que Bungie et Microsoft ont compris, OK, là, il y a quelque chose. Et ils ont demandé une suite, etc. Mais pas pour rentrer dans cette histoire-là. Mais moi, je voulais savoir, Watapono, c'était quoi le moment pour vous où vous avez compris, OK, là, on a quelque chose?
Je pense que des histoires comme ça, oui, ça existe, mais c'est pas la majorité des histoires de succès. Évidemment, des moments comme ça, j'en ai plusieurs, pour être très honnête. La première personne qui s'est abonnée à notre Patreon, qui a décidé de donner 5$ par mois, parce que, ah ben oui, c'est un bon jeu, c'est comme, OK, t'as pas, j'ai fait quelque chose. Et il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour ça. Et ça, c'est quand même quelque chose, là. On donne pas de l'argent pour le pur plaisir, là. Non, et pourtant, Patreon, c'est un peu ça. C'est plus pour le pur plaisir, juste pour supporter quelqu'un. Donc ça a été un premier moment. Ensuite de ça, quand on a sorti notre premier jeu, Magical Waifus Academy, là, c'était vraiment, OK, on a sorti un jeu, là. On l'a fait, on est arrivé au bout du processus. Faire un jeu, c'est le fun. Sortir un jeu complet, c'est une autre paire de manches. Entre un jeu qui fonctionne et juste polir tous les petits coins ronds, c'est autre chose. On dit souvent que l'ébénisterie, c'est 90% de sablage et 10% de taillage. Ben, c'est un petit peu la même chose en jeu vidéo. C'est 90% d'arrondir des coins ronds, de rendre le jeu juste meilleur, plus le fun, plus accessible. Faire des menus pour les sons, pour refaire ses touches, bref, tout cela. Mais quand t'arrives au bout, là, on était comme, OK, on l'a fait. Quand j'ai engagé un deuxième artiste, OK, là, tu sais, c'est plus juste moi pis un petit gars, là. Ben, un petit gars, on s'entend qu'il est plus vieux que moi, en plus. Mais tu sais, c'est pas juste deux personnes chez eux qui font ça. On est rendu avec un studio qui a plusieurs personnes. Là, récemment, j'ai reçu juste cet automne, là, pis l'automne n'est pas avancé depuis longtemps. J'ai reçu cet automne 5 demandes de stagiaires. Ça aussi, c'est un peu surréel, puis c'est un moment de « OK, c'est moi maintenant la référence ». Donc, je pense que des gros moments comme « Oh, il y a plusieurs personnes qui vont venir me voir pour des autographes », je pense pas que ça va arriver, mais il y a plusieurs petits moments comme ça. À Tokyton, cet été, on avait des cosplayers de notre jeu, des cosplayers, des gens qui ont pris de leur temps, de leur argent pour faire des costumes, des personnages de notre jeu. C'est absolument surréel pour moi. J'ai trippé ma vie, évidemment, quand j'ai vu ça. Fait qu'il y a plusieurs moments comme ça, pour vrai. Il y a plusieurs échelons, et chaque échelon se doit d'être apprécié pour ce qu'il est. Et c'est aussi une grande leçon de vivre dans le moment présent, parce que c'est tellement facile de se perdre par rapport aux autres gros studios. Il y a tellement de studios et de projets qui ont parti après moi et qui sont plus gros que moi maintenant. Mais il faut pas faire ça en entrepreneuriat, il faut jamais se comparer. Parce que c'est juste un plan pour qu'on arrête de tout faire et qu'on tombe en dépression. Mais voilà, des moments comme ça de « Hey, on a réussi, on tient quelque chose », il y en a tellement. Puis bon, en vrai, je peux pas être plus heureux de tout ça. Puis évidemment, je remercie à tous les jours la communauté, à tous les jours que je me lève, je regarde mon lit et je me dis « Hey, j'ai chaud l'hiver ». Parce qu'on me permet de payer Hydro-Québec grâce au jeu que je fais, grâce à ma communauté. Et juste ça, à tous les jours, c'est un moment qui est vrai, qui est réel. C'est ça, c'est un moment de « on tient quelque chose, on l'a là, là ».
Je crois que eux aussi, les gens de votre communauté, ils pensent de la même manière de vous. Je crois que les sentiments sont mutuels. Un peu plus tôt, vous avez parlé des studios qui meurent dans l'œuf, notamment pour
oui.
Les jeux indépendants. En fait, quel est le paysage de l'industrie de cette en partant de justement de ce fait-là, que comme 90% des entreprises, que les petits studios qui ouvrent à chaque année, parmi eux, il y en a plein qui meurent dans les premiers 5 ans ou même avant. Et le fait que vous coexistez aussi avec des studios comme Ubisoft et Square Enix.
Mm-hmm. Les chiffres dans le domaine du jeu vidéo, on les connaît bien grâce à Steam surtout, là, qui est la plus grosse plateforme de jeux vidéo sur PC au monde, au monde tout court et particulièrement sur PC. Et on sait que les chiffres, c'est absolument désastreux, là. On sait qu'il y a moins de 5% des jeux vidéo qui sont profitables. On sait aussi qu'il y a 50% du temps de jeu des joueurs qui sont sur 6 jeux. On parle des Baldur's Gate, les Call of Duty, on joue toujours au même jeu. C'est normal, on a un jeu qu'on aime bien. On parlait de Halo tout à l'heure. Combien d'heures j'ai mis dans Halo 2, dans Halo Reach? Ben trop d'heures. Ben non, pas ben trop parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais je ne jouais pas à d'autres jeux pendant ce temps-là. Donc tous les petits studios indépendants, on se bat pour une poignée de minutes, là, essentiellement. Et ça, ben, ça fait en sorte que les ventes de jeux, on a les gros jeux qui vendent beaucoup, puis après ça tombe en pic incroyable. Donc on veut être à quelque part dans la descente, là, évidemment pas au plancher, mais être sur le dessus de la montagne, c'est évidemment impossible là, pour des studios indépendants, avec quelques exceptions. Je parlais de Hollow Knight tout à l'heure, ça c'est une exception, c'est un petit studio qui a fait un jeu qui a pogné. Mais pour chaque Hollow Knight, il existe des milliers de Metroidvania qui n'ont pas réussi, puis il en existe encore plus qui n'ont jamais sorti leur jeu parce qu'ils ne se sont pas rendus au bout pour des raisons X, Y, Z. J'ai dit que je ne m'étais pas payé pendant 5 ans. C'est une des grosses raisons, ça, quand on veut trop se payer. Puis en même temps, c'est normal de vouloir se payer, tu sais, mais c'est pas toujours viable. Il y a tellement, tellement d'heures de mon travail qui ne seront jamais rémunérées. C'est la réalité de l'entrepreneuriat parfois. Puis, ben c'est ça, c'est juste normal, hein. Le milieu est difficile. Le milieu du jeu pour adultes est encore pire. Parce qu'évidemment, ben, il n'y a personne qui veut investir dans un jeu pour adultes parce que, ben, bon vieux fonds cathos, j'imagine. Mais voilà, donc le milieu du jeu vidéo est incroyablement saturé. Il y a déjà tellement, tellement de bons jeux qui existent sur le marché. Pourquoi en sortir d'autres quand il y en existe tellement, autant de bons qu'on n'aura jamais le temps de passer au travers dans notre vie? Et là, on commence même pas à parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une catastrophe pour le milieu du jeu vidéo. Oui, ça peut aider dans certains cas, mais il y a beaucoup de développeurs, de studios qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle une race to the bottom, une course au bas-fond, qui sortent des produits minimales, mais qui inondent le marché avec essentiellement des petits jeux vraiment pas bons. Et ça existait déjà avant, ce phénomène-là. Malheureusement, l'intelligence artificielle, une des choses que ça permet, c'est de faire ces produits pas bons-là et d'en faire bien plus, bien plus vite. Donc voilà, le domaine du jeu vidéo, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment.
Justement, vous parliez du fait que vous êtes un grand nombre d'entrepreneurs et de développeurs qui vous battez pour un petit nombre de minutes pour vos jeux. Et c'est important pour cette raison que l'attention des joueurs reste sur votre jeu.
Oui.
Et par rapport à ça, pour vous, c'est quoi le plus important dans un jeu vidéo pour vous, Watapono?
On dira bien ce qu'on veut. Le plus important, c'est de faire un jeu qui est le fun. Puis ça, on le sait dès le départ. Dès qu'on fait une mécanique, toute personne peut arriver puis dire, hey, le jeu que je suis en train de faire là, il est le fun. Et si vous faites un jeu, si vous commencez à faire un jeu, puis que vous arrivez avec votre mécanique de jeu, puis vous dites, c'est juste semi mon affaire, ben c'est que c'est pas bon. Hein? C'est qu'il y a quelque chose de meilleur à faire que ça. L'important, c'est vraiment de juste avoir un jeu plaisant. Magical Waifus Academy, les premiers concepts étaient plus loin que ce qu'on a du produit fini là. Et de fait, il y avait des irritants. Moi-même, je jouais, puis j'étais comme, ah, c'est le fun, mais ce morceau-là, je le trouve moins hot. J'ai sorti la version et les commentaires que j'ai eus, c'était exactement ça. Là, le jeu qu'on est en train de faire, Magical Hellhound Lost, qui devrait sortir à quelque part ce printemps, dès les premiers instants, je l'ai pris, j'ai commencé à jouer avec, puis je le trouvais le fun. J'avais du plaisir à jouer avec. Les mécaniques de combat sont intéressantes. Les combats sont dynamiques, rapides. Donc, quand on tient quelque chose de le fun, on le sait et c'est vraiment le plus important. Oui, l'art. Oui, avoir du beau code clean. Oui, avoir des beaux sons. Oui, avoir du beau voice acting, tout ça. Mais le plus important, c'est d'abord et avant tout d'avoir un jeu plaisant. Pong a vendu un grand, grand nombre de copies. C'est un des jeux cultes, Pong. C'est toujours bien que deux barres qui se renvoient un carré. Pourtant, c'est le fun.
Et en ce moment, vous êtes quelqu'un qui développait des jeux pour adultes, comme vous l'aviez dit. Et un des facteurs, justement, du fait que votre jeu est fun, c'est le contenu adulte, là. Soyons pas quand même.
Et, mais non, on se masquera pas les yeux non plus, là.
Ben oui. Mais en ce moment, évidemment, il y a des petits soucis, on va dire ça comme ça, pour être honnête, par rapport aux jeux adultes sur les plateformes PC, notamment à cause de Mastercard, Visa et les processeurs de paiement. Vous avez dû ajuster vos plans de business, j'imagine, et aussi, vous avez été obligé de repenser en fait votre modèle d'affaires à cause de ces enjeux-là.
Ben oui, dans une certaine mesure, dans le sens où c'est, je veux dire, on le sait tous que le contenu pour adultes. C'est légal, mais personne n'en parle. Moi, je me souviens, dans le temps, les premières vidéos et les clubs Vidéotron, il y avait une section avec un rideau dans le fond. T'sais, on tenait ça mort, mais il y a un public qui va acheter ça, fait que c'est sûr, on va en proposer comme produit. Pis c'est correct, pis c'est normal. En tout cas, moi, c'est ça que je veux dire. C'est correct, pis c'est normal, surtout. Donc, c'est toujours quelque chose qui existait dans le domaine du jeu vidéo, dans les magazines, dans les clubs vidéo. Ça a toujours été là. Là, en ce moment, c'est simplement une autre vague. Il y a toujours des gens qui poussent pour avoir plus de contenu pour adultes, puis que ça soit plus normalisé. Il y a des gens qui poussent contre ça aussi. Puis c'est correct, c'est un clash d'idées. C'est un clash marché capitaliste. Là. Et c'est sûr, c'est normal. Là, en ce moment, on est dans une vague qui est un petit peu plus grosse avec Visa Mastercard. Ça a déjà été le cas dans le passé. Là, c'est le cas maintenant. Ils vont se recalmer à un moment donné. Donc, c'est des vagues qui arrivent comme ça. Est-ce que ça nécessite de changer son modèle d'affaires? Oui, un peu. Puis ça, c'est un peu comme tout le contenu légal, mais qu'on veut cacher. Parce que là, on parle du contenu pour adultes, mais il y a d'autres contenus légaux qu'on veut cacher. Ce qu'on appelle le gacha, ou les microtransactions dans les jeux pour enfants, les jeux qu'on achète, au lieu d'acheter... Par exemple, un nouvel habit pour notre personnage, on achète une boîte et dans la boîte, il y a une chance d'avoir un habit qu'on veut pour notre personnage. Ça a été répandu dans le monde du jeu vidéo pendant des années, ça l'est encore, mais de moins en moins, je crois. J'ai pas exactement de chiffres là-dessus, là, c'est juste mon expérience personnelle qui parle. Mais ça aussi, ça a été du contenu qui a été, dans certains pays, légiféré contre. Et dans certains pays, il y a certains jeux qui sont soit complètement différents ou complètement inaccessibles parce que ces boîtes surprises-là ont été classifiées comme
des jeux de hasard.
La loterie.
Oui,
mais c'est ça. Exactement, ça a été considéré comme jeu de hasard et des jeux de hasard pour les enfants, c'est interdit. Donc, ces jeux-là sont interdits dans ces pays-là. Et c'est la même chose avec le contenu pour adultes. Là. C'est des contenus légaux, mais évidemment, pas pour tout le monde. Là. Évidemment, c'est du contenu pour adultes. Et ben, dans certains pays, il y a certains pays qui ne le veulent pas. Là, il y a des pays que c'est correct, comme au Canada, aux États-Unis, en Europe, là, tout ça. Mais là, en ce moment, c'est sur un des gros problèmes qu'on a, c'est que c'est les cartes de crédit qui nous disent qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter. Et ça, ben ça fait beaucoup de remous, disons, parce que là... Là, oui, c'est le contenu pour adultes, mais demain matin, ça va être qu'on peut pas acheter de casquette Make America Great Again ou de casquette Président Biden for the win forever. T'sais, donc, le concept... En ce moment, c'est plus le concept des cartes de crédit qui nous disent qu'est-ce qu'on peut et qu'on ne peut pas acheter qui fait mal.
Ouais, c'est plus une question de principe pour vous.
C'est ça. Ben, puis je pense que pas mal pour tout le monde aussi, parce que il n'y a pas personne dans la communauté pour adultes qui va dire « Ah oui, on va mettre du contenu pour adultes partout, là, sur le bord de l'autoroute, sans aucun problème. » Non, évidemment, là, on est des personnes sensées. Là. C'est pas parce que c'est notre travail qu'on veut briser les lois et on veut briser la bonne morale. Là. Bien au contraire, on est souvent plus moral que bien des gens. Moi, quand je vais dans des conventions, les posters que j'ai, les figurines que j'ai, c'est jamais les pires et de loin, là. T'sais, parce que c'est ça, on a toujours un concept d'autocensure, là.
Justement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait plus d'argent? Parce qu'on avait parlé justement il y a 2 semaines avec un autre invité, Jean-Philippe, qui parlait justement du fait que Blizzard avait fait plus d'argent sur une monture que sur StarCraft en entier. Une monture sur Elden Ring, je pense, ou un autre jeu. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait plus d'argent sur la vente de vos jeux ou sur le contenu qui est fait autour, c'est-à-dire, par exemple, la vente de marchandises?
Ben, c'est très dur à dire, en fait, parce qu'on n'a pas de marchandises disponibles à l'année. Quoique, au moment où cette émission-là va jouer, on va avoir lancé un magasin en ligne d'articles physiques, donc des porte-clés, des posters là, qui sont à la fois pour adultes et pas pour adultes. Et donc c'est un peu drôle que quand cette émission-là va jouer, je vais pouvoir répondre à la question, mais au moment où on me pose la question, je ne peux pas répondre à la question parce qu'on n'a pas de marchandises encore. Donc nous, les jeux qu'on fait, c'est des jeux qu'on achète une fois et qu'on possède pour toujours, ce que je crois est la bonne façon de faire. Pas de microtransactions, pas de mécanique surprise, pas de rien de tout cela. Et ben, donc, je peux pas répondre, parce que essentiellement ce qu'on vend, c'est nos jeux. Et ben donc voilà, je peux malheureusement pas répondre en ce moment. Vous nous reviendrez dans quelques jours, quand je vais avoir lancé notre boutique de marchandises physiques en ligne.
J'ai hâte de voir ce que vous avez à nous vendre. Après la pause, nous allons parler des projets futurs de Wataponu, de ce qu'il pense de son avenir dans l'industrie et des conseils pour les développeurs et les éditeurs, tout de suite après la pause. Donc, retour de la pause, dernier segment, Wataponu, parlez-nous-en un peu de vos projets futurs. Vous parliez d'une suite de Magical Monster Girl Academy qui va sortir ce printemps.
Voilà, donc la suite de Magical Monster Girls Academy va sortir normalement ce printemps, si tout va bien. Magical Hellhound Lost, que ça s'appelle. Et ce jeu-là est un jeu complètement différent de ce qu'on a fait avant, pour la simple et bonne raison qu'un jeu, ça se ressemble beaucoup. Magical Monster Girls Academy ressemble beaucoup à son prédécesseur Magical Waifus Academy, évidemment l'un est la suite de l'autre, et ça me tentait pas de faire 3 fois le même jeu. Hein? Essentiellement, là j'ai fait Magical Waifus Academy, j'ai fait Magical Monster Girls Academy qui ressemble beaucoup, et là de refaire un jeu qui ressemble beaucoup encore, non, je veux dire, j'allais me perdre là, à un moment donné, je veux dire... C'est le fun de refaire les mêmes affaires tout le temps, mais pas trop non plus. Donc, on a fait un jeu qui est complètement différent, qui est un top-down roguelite, pour ceux qui s'y connaissent. Là, c'est un jeu en vue du dessus, où on est dans un grand donjon très difficile. Et le concept, c'est qu'on meurt dans le donjon, mais on devient plus fort. Donc, on meurt dans le donjon, on recommence au début, mais un petit peu plus fort. Ça va nous permettre de nous rendre plus loin dans le donjon. On meurt encore, on recommence au début un petit peu plus fort. Et à un moment donné, on se rend au bout, évidemment. Donc, on garde les mêmes personnages, la même histoire, parce que ben, ça, c'est quelque chose que les joueurs ont appris à aimer, les personnages qu'on a créés. C'est ça que notre communauté aime, donc ce serait une très mauvaise idée, financièrement parlant, d'aller juste dans un autre univers complètement. Là, il y a beaucoup d'histoires à rencontrer encore dans l'univers qu'on a créé. Évidemment, un jour, il va falloir se départir de cet univers-là. Il faut pas non plus trop étirer les vaches à lait, mais... pour l'instant, on a encore plein d'histoires à raconter, donc c'est pour ça qu'on continue. Donc voilà, idéalement, ça sort ce printemps, et espérons que ça fasse un carton. On parlait tout à l'heure aussi de changer notre modèle d'affaires, et c'est une des choses qu'on essaye avec ce jeu-là aussi. Donc on va avoir une version tout public, que tout le monde va y pouvoir jouer, là, littéralement tout le monde. Et on a une version qui va avoir le contenu pour adultes. Donc on va avoir 2 versions du jeu. C'est un modèle d'affaires qui existe déjà, que plusieurs compagnies font. Que vous en rendiez compte ou non, vous avez probablement quelques jeux que vous avez déjà joués qui existent une version pour adultes à quelque part. Eh bien, nous, on se lance là-dedans. Parce qu'évidemment, c'est plus complexe de faire un jeu qui est à la fois tout public et pour adultes aussi. Ça nécessite de faire deux versions de beaucoup de dialogues. Évidemment, si on enregistre les dialogues, là, ça coûte plus cher. Ça change un petit peu l'histoire aussi. Donc, c'est plus complexe. Je comprends pourquoi c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais nous, c'est quelque chose qu'on essaye, voir si on a une bonne réception aussi avec ce concept-là.
Justement, vous parliez du fait que vous faites des jeux pour adultes. C'est une réalité de l'industrie dans laquelle vous êtes, le type de jeu que vous faites. Quel avenir est-ce que vous projetez, vous voir, vous, Watapono, dans l'industrie des jeux vidéo, dans cette perspective-là?
Ouf, très très bonne question. Si j'étais devin, j'aimerais beaucoup avoir une boule de cristal en ce moment pour voir si dans 10 ans je vais encore faire Watapono. C'est une question très complexe. Je pense pas que le jeu vidéo va mourir. Je pense pas que l'industrie pour adultes va mourir non plus. Est-ce que moi, Watapono, je vais avoir encore la flamme de faire ça ou je vais plutôt avoir la flemme de faire ça dans quelques années? Qui sait? Si je vais vouloir changer de carrière, là, par exemple, là, ça se peut que ça arrive. Des fois, on veut changer de carrière, tout simplement. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir et je compte continuer. Mais ce serait au moins mal avisé de penser que je connais le futur. Sauf que, bon, moi, je pense qu'il me reste encore un bon 2 ans. Dans les 2 prochaines années, je suis capable de me projeter aussi loin que ça dans le futur. Je me vois encore faire des jeux dans le futur pour 2 ans. Et ce qui est vraiment le fun aussi avec la grosseur de l'entreprise qu'on a en ce moment, avec la grosseur de Watapono, c'est qu'on n'est pas une entreprise avec des dizaines et des dizaines d'employés. On peut facilement réduire tout en gardant l'essence de ce qu'on est. Si on essaie de réduire Ubisoft à 3 personnes, ça va être difficile parce que leur jeu contient des centaines et des centaines de développeurs. Donc, ce serait impossible de sortir un Assassin's Creed avec 3 personnes. Tandis que Watapono, avec 3 personnes, on serait capable de se débrouiller encore. Ouais. Donc, on est dans ce beau point milieu-là où on est assez gros pour faire des produits qui sont intéressants dans un temps raisonnable, mais on n'est pas trop gros non plus. Donc, même si toute part à la dérive, on va quand même. On peut maintenir un noyau pour pas beaucoup de coûts. Donc, en même temps, moi, c'est une des façons que j'ai monté l'entreprise aussi. Là. Je dis pas que c'est la seule façon de faire, là, bien au contraire. Mais moi, c'est une des façons que j'ai monté l'entreprise parce que justement, l'industrie du jeu vidéo et l'industrie pour adultes, donc les deux industries dans lesquelles on a un pied, c'est toujours un peu incertain.
Et
Mais
votre entre...
pour les prochaines années, là, c'est sûr que moi, je me vois continuer, là, à faire du jeu vidéo. Ouais.
D'accord. Et concernant justement votre studio à vous, c'est un peu votre bébé. Et pourtant, je suis sûr que c'est le
Oui.
même cas pour plusieurs développeurs indépendants qui partent leur propre studio. Et pourtant, plusieurs d'entre eux décident de revendre leur studio pour quand même des montants importants, des sommes importantes à des plus grosses compagnies comme, ou des plus gros développeurs comme Microsoft ou Ubisoft ou, etc. Récemment, justement, c'est pas un studio indépendant, mais EA qui a été, sûrement vu, vous avez vu, racheté par la monarchie saoudienne. Est-ce que vous... Juste une question générale. Vous, Watapono, si demain il y a Microsoft ou quelqu'un qui vient cogner à vos portes et dit, écoute, je te paye, je sais pas, 1,5 million, et maintenant, ben, ton studio il est sous ma compagnie. Vous dites quoi?
C'est sûr que il faut pas se leurrer, tout dans la vie a un prix. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais avec Watapono. Je suis attaché aux personnages qu'on a créés. Je suis attaché à leurs histoires, leur personnalité. Puis j'ai hâte de voir où ils vont aussi. Tout le monde qui connaît le processus de création sait que les personnages et les histoires ont une espèce de volonté propre, là. Donc j'ai hâte de voir où ils vont aller aussi. Mais c'est sûr que tout a un prix, là. Si on veut me racheter pour 1 million, 2 millions, et là je lance des chiffres comme ça, c'est un calcul qui est quand même plus complexe que ça, racheter une entreprise. Mais c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Donc il faudrait que moi je m'assoie et que je calcule, bon, C'est sûr, si on m'offre 100 millions, ben là, oui, où est-ce que je signe? Tu sais, je prends ma retraite demain matin, puis probablement toute ma famille immédiate aussi pour 100 millions de dollars. Tu sais. Fait qu'il y a des choses qui se feraient, bien évidemment, là, sans même avoir à y penser. Donc, oui, si quelqu'un vient cogner à ma porte, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Ça viendrait avec des conditions, évidemment, c'est parce que je veux pas laisser tout le processus créatif. Je voudrais pas abandonner ces histoires-là. Je voudrais pas sentir que j'ai abandonné ma communauté. Mais c'est ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat que oui, on aime ça du succès, on aime ça de l'argent, puis on aime ça rester dans notre compagnie aussi, c'est en effet notre bébé, mais c'est sûr, tout a un prix.
Je crois que ça, c'est une bonne manière de justement commencer le dernier segment qui est le conseil pour les développeurs et les éditeurs. Vous commencez par dire que ben, Watapono, ben, tout a un prix, justement. Peut-être ça, c'est un bon conseil à donner pour les développeurs et les éditeurs. En avez-vous d'autres?
Tellement de conseils. C'est triste qu'on aille juste une heure parce qu'il y a tellement à dire pour vrai. C'est une des raisons pourquoi je fais des conférences un peu partout là, au Québec. Il y a tellement de bons conseils. Il y a des mauvais conseils aussi. Il y a des conseils qui sont valides très spécifiquement aussi. Puis évidemment, quand je peux répondre à une question un à un, je peux répondre plus précisément. Mais de manière générale, c'est d'abord avant tout avoir du fun dans ce qu'on fait. Parce que on a tous déjà été pris dans des emplois qu'on n'aimait pas, mais qu'il fallait faire parce qu'on a justement un loyer à payer. On l'a tous déjà fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la société dans laquelle on est. Donc, quand on va en entrepreneuriat, idéalement, c'est pour pas avoir ce type d'emploi-là. Donc, si on s'en va dans un emploi, si on pense que faire des jeux vidéo, ah, c'est super, c'est vraiment ce que je veux faire, puis qu'on se rend compte qu'on n'aime pas ça. Ben, c'est correct aussi de ne pas le faire. C'est correct de dire j'ai essayé, puis j'aime pas ça, je vais aller faire autre chose. Et ça m'amène à mon plus grand conseil, qui est, et là, je vais plagier Nike un peu, mais c'est just do it. Si vous voulez faire quelque chose, commencez par le faire. Il y a un meme sur Twitter qui passe récemment, c'est. Make it, then make it good. Faites-le, puis après, faites en sorte que ça soit bon. Faites en sorte que ça soit beau, parce que c'est plus un trend artistique, là. Commencez par faire un cercle. Après ça, vous ferez la face du personnage, puis vous le rendrez beau. Mais tiens, faut commencer par faire un cercle. Si on commence pas par faire un cercle, ça va être dur de faire le reste du personnage. Ça va être dur de faire la face si on commence pas par faire un cercle. Donc, mon plus grand conseil pour vrai, c'est ça, c'est. Faut juste le faire. Donc, commençons par le faire, puis après ça, on verra. Mais c'est une bonne première étape et c'est une grosse première étape. Dieu sait que j'ai procrastiné dans ma vie, mais c'est quelque chose qu'il faut ne pas faire. La procrastination, très mauvais conseil, ça. Donc, c'est ça. C'est juste, faut le faire. Que ce soit jeu vidéo, musique, mais s'il y a quelque chose que ça vous tente de faire, si vous avez un but dans la vie quelconque, ah, je voudrais aller voyager au Mexique dans 2 ans, ben, un gros but de même, ça se sépare, puis ça se fait, OK, ben là, dans 1 an, il faut que j'aille faire telle chose pour me préparer. Ça veut dire que dans 3 mois, il faut que j'aille faire telle chose. Ça veut dire que dans 1 mois, il faut que j'aille faire telle chose. Ça veut dire que demain matin, il faut que j'aille faire telle affaire, sinon je n'arrive pas dans mon agenda puis dans mon planning. Donc, juste commencer à le faire. C'est le plus gros conseil que je peux faire, que je peux donner.
Ben, je crois que ça, c'est un excellent conseil qui s'applique autant pour les développeurs que dans n'importe quel domaine. Et justement, si il y en a d'autres chez nos auditeurs qui veulent entendre Watapono parler des conseils pour développeurs et éditeurs, allez l'écouter, restez à l'affût pour les conférences qu'il va donner à plusieurs conventions à travers le Québec et ailleurs au Canada aussi. Évidemment, vous faites aussi des conférences à Toronto en anglais, c'est ça?
Oui. Absolument, absolument. Puis là, notre prochaine sera à G-Anime, qui je crois est la fin de semaine du 16-18 janvier 2026. Nous y serons. Donc, on va avoir une table, on va avoir des panels, comme vous allez pouvoir venir jaser avec nous autres. On aime beaucoup juste discuter avec les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime ça parler. J'aime ça écouter aussi. Donc, j'aime ça jaser avec les gens. C'est d'abord et avant tout pourquoi je fais ça.
Oui, vous parlez très bien. Attendez, d'y animer, j'y serai aussi. Hein?
Ah, ben, okay, on va se voir là, bon, mort.
Absolument, absolument. Ben, merci beaucoup, Watapono, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de faire cette entrevue. Je suis sûr que les développeurs qui sont à l'écoute prendront vos conseils. La semaine prochaine, un invité un peu spécial, un invité surprise. Je ne vais pas révéler c'est qui, mais évidemment, on parlera jeux vidéo. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci, Bromard, de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup.